associés, impliqués sur cette campagne de restauration des bus de la Cour de Marne. C'est une campagne que vous commencez à bien connaître maintenant, puisque vous en parlez depuis 2 ans au moins, enfin depuis fin 2014 en fait, et que la Société des Amis a à ce jour adopté 15 bustes sur le point, enfin, en train d'être adopté le 16e bus, qui est le bus de Titus. Voilà, donc je vais laisser la parole à Maxime pour nous parler de cette campagne, là où nous en sommes, et des suites. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Alors, ce soir, j'ai pris, je dirais, le défi de vous conter l'histoire de ces 84 bustes, de leur mise en place en 1665 jusqu'à nos jours. J'ai essayé de tenir les délais, je me donne presque une heure. Je vais essayer de tenir ces délais. Alors avant toute chose, je remercie une nouvelle fois Bénédicte Viard, ici présente, toute la Société des Amis de Versailles, et puis vous, puisque en tant que mécène, vous avez contribué à mon travail et vous avez donné naissance quelque part à cette première mission en juin 2014. Et c'est bien pour ça que je souhaite dédier cette conférence à Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine et directeur du département des sculptures de Versailles, puisque c'est lui qui m'a confié cette mission en juin 2014 d'étudier tous ces bustes pour pouvoir lancer cette campagne de restauration. Alors, lorsqu'en 1716, Georges-Louis le Rouge, qui écrit une très belle description du château de Versailles, présente le château comme la 8e merveille du monde, après les 7 traditionnelles qui sont représentatives de la civilisation gréco-romaine, il fait du château de Louis XIV le véritable parangon de la nouvelle antiquité. Le souvenir de l'Empire romain est une véritable clé d'interprétation du règne de Louis XIV. L'attirance du jeune souverain pour ses grandes réalisations artistiques se place, dans la tradition de ses prédécesseurs, François Ier et Henri II, mais aussi des hommes de sa jeunesse, et on pense tout de suite aux deux cardinaux, Richelieu et Mazarin. La volonté, ou on pourrait appeler ce soir le devoir politique, de posséder des œuvres antiques entraîne une considérable entreprise de commande. Pourtant, le principe n'est pas nouveau, Louis XIV au XVIIe siècle, mais on peut se rappeler de François Ier, qui envoie en Italie le prix Matisse pour lancer de grandes campagnes de copies et une grande campagne de beaux achats. Et Fontainebleau avait précédé Versailles dans sa course à la collection antiquaire, et Vasari faisait à la même époque de Fontainebleau la nouvelle Rome. Alors, dès 1665, Louis XIV couvre Versailles de bustes, bien avant l'installation des plus célèbres antiques dans la Galerie des Glaces. Par sa présentation et son agencement dans le cadre versaillais, cette profusion de bustes, au nombre de 84 tout de même, avait pour ambition de tenir un discours d'une portée quasi politique, dépassant le domaine archéologique et artistique. Le franchissement des cours de marbre et royal était comme une première vision de l'antique ou une préface à cette antiquité idéale recomposée dans le parc de Versailles, dans le petit parc de Louis XIV, grâce au rassemblement d'œuvres dispersées au sein de grandes collections distinctes et dont les originaux, qui sont pour la plupart encore aujourd'hui en Italie, sont très difficiles à voir. Alors, la lecture, de Suétone et de l'histoire romaine en général a rendu indispensable la possession des bustes d'empereurs. Leurs emplacements, qui sont ici spécifiquement choisis, mettent en scène le pouvoir royal, l'ordre et surtout la gloire d'Auguste et des Césars, qui permet d'amplifier celle de Louis XIV. Plus encore, le roi se montre ainsi en protecteur éclairé des arts et des artistes de son temps. Les empereurs romains, mais on le verra, ce ne sont pas les seuls, comme les grands hommes de l'Antiquité, servent de modèle pour les souverains de Versailles, que ce soit Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, voire même quelques décennies plus tard, Louis-Philippe. Ainsi, Charles Perrault notait qu'on peut dire de Versailles ce qu'on disait de Rome, que de brique qu'elle était, Auguste l'avait rendue toute de marbre. Alors en 2014, confronté au mauvais état de ces bustes, dont certains étaient sur le point de tomber, la direction du Musée national de Versailles en a entrepris la restauration complète. Et c'est dans le cadre de cette opération, qui ne peut se dérouler qu'en plusieurs années, puisqu'on est déjà à la deuxième année et on imagine encore durer au minimum 5 ans. Dans ce cadre, Alexandre Maral m'a confié l'étude historique préalable au moment de la dépose, en septembre 2014, des 15 premiers bustes les plus en danger. Ce sont les bustes de la façade du roi, donc de la façade du fond, et ensuite sur les façades latérales, ceux qui étaient le plus en danger, tant pour les bustes que pour les visiteurs, puisqu'il manquait de tomber et de glisser de leur console. Là, je débuterai donc cette histoire au XVIIe siècle avec la première mention des bustes sur les façades simplement de la cour de marbre qui date du 4 mai 1665. Alors, Louis Petit, qui était le contrôleur des bâtiments du roi, qui tenait informé Jean-Baptiste Colbert, qui à l'époque travaillait un petit peu sur tous les chantiers royaux et notamment le palais du Louvre, le tenait au courant de l'avancement du chantier versaillais. Et c'est lui qui mentionne dans son premier rapport cette profusion de bustes. Il écrit « L'on avance fort, la décoration des façades des murs dans la cour, et vous verrez beaucoup de bustes posés ». C'est la toute première mention historique de ces bustes. Alors, ce premier rapport de mai 1665 intervient quelques mois avant le voyage en France du cavalier Bernin, qui déclarait au roi, le 7 octobre de la même année, outre que cela, donc c'est-à-dire la possession de belles œuvres antiques, donne à un prince de la réputation parmi les étrangers, c'est qu'il y a grande satisfaction à voir de beaux tableaux, de belles statues et des bustes qui ramènent à l'esprit la ressemblance des grands hommes et leurs actions et, servant d'entretien, donnent de l'émulation et du désir d'en imiter les vertus. Alors, Louis XIV possédait déjà un certain nombre d'antiques qu'il avait obtenu en confisquant la collection de son surintendant des finances, Nicolas Fouquet, en 1664, mais surtout en achetant la plus grande partie de la collection du cardinal Mazarin en 1665. Les comptes des bâtiments du roi rapportent différents paiements pour la floraison des bustes couvrant la petite cour, encore fermée, on va le voir, par des arcades maçonnées. Alors, je vous ai mis les principaux dont je vous passerai la lecture, mais on peut relever tout de même, dès le 12 juin 1665, des paiements assez considérables, 900 livres, à Antoine Poissant, sculpteur, ils sont tous sculpteurs, à Comte des bustes et consoles qu'il fait pour Versailles, de nouveau à Poissant pour des bustes et consoles, Henri Legrand apparaît dès le mois de juillet, Pierre Chéneau, et un petit peu plus tard, au mois de juillet, Jean Baudin pour l'achat de cette buste. C'est tout à fait intéressant puisque là, on ne crée plus des bustes, mais on les achète. On les achète à l'étranger et on sait que François Girardon revient d'Italie avec des caisses entières remplies de têtes, de morceaux de bustes, voire des pieds pour les sculptures de la Grande Galerie de Versailles. Lucas, qui achète de nouveau donc, 3 bustes de marbre, et Duglay, le dernier, pour 4 bustes antiques qu'il a vendus. Les commandes s'accélèrent en 1670-72, au moment où le château est prolongé de chaque côté de la cour royale, au moyen de deux ailes symétriques. C'est la deuxième grande phase de construction du château Versailles. Ces deux ailes bénéficient dès lors de la même décoration que les façades, dans une idée de continuité. On prolonge donc la cour de marbre. Et du coup, plusieurs paiements attestent de cette modification. Guyot, qui fournit énormément de bustes, mais aussi, je vous le disais, Girardon, pour ce qu'il a payé à plusieurs sculpteurs qui ont fait 36 corps de bustes et restauré les têtes qui ont été données au magasin du roi. Donc Girardon rapporte des têtes d'Italie et on aperçoit à travers ce paiement du 23 septembre 1670 qu'il était à la tête de toute une brigade de sculpteurs qui travaillaient à la constitution, à la création, au montage de nombreux bustes pour mettre sur les façades. Alors, l'ampleur des travaux est telle que des commandes sont passées à d'autres sculpteurs. Je ne vous les ai pas mis puisque ça reprend assez les mêmes noms. On pense à Desessard, Moussy, Blanchard, qui sont tous des sculpteurs qui étaient inconnus avant 1665, qui vont faire leurs armes sur les façades de la cour de marbre et de la cour royale, et qui finalement se verront octroyer plusieurs chantiers dans les années à venir sur le chantier de Versailles. Alors, les comptes des bâtiments sont finalement la seule source concernant l'installation de cette buste. Il renseigne dans un premier temps sur le nom des sculpteurs qui ont participé à ce chantier, et donc je vous le disais surtout, et j'insiste, François Girardon. De plus, on apprend que ces bustes ne sont pas des créations ex nihilo, mais pour certains bustes, des antiques, fragments d'antiques ou considérés comme tels. Voilà. Ces fragments, dont le mode d'acquisition reste inconnu, étaient conservés dans le magasin du roi, c'est ce qui est mentionné pour le paiement à Girardon. Et en effet, si on regarde dès 1679, Colbert souhaite que le directeur de l'Académie de France à Rome, qui est créé en 1666, réalise, je cite, « un mémoire de tout ce qu'il y a de beau à Rome en statues, bustes, vases, antiques et tableaux, en marquant en marge ceux que vous aurez déjà fait copier et ceux qui restent encore à faire copier, ou en peinture ou en sculpture ». Ça montre bien le programme politique de Louis XIV et à travers lui Colbert, qui envoie des sculpteurs, je dirais, en formation, reçus à l'Académie, en Italie, pour copier, prendre exemple, faire des croquis, pour tout rapporter eh bien, à Versailles et pour créer. Alors, André Philibien, qui réalise la toute première description du château de Versailles, cette description sommaire du château de Versailles, parle ainsi d'une infinité de bustes de marbre sur des consoles, hein, je vous l'ai souligné. Et la gravure de Jean le Pôtre, qui représente eh bien, ce Medianoche, donné en 1674 dans la cour de marbre, pendant la fête célébrant la conquête de la Franche-Comté, permet eh bien, d'imaginer, de se figurer l'emplacement des bustes, mais surtout l'effet global de cette profusion de sculptures, d'autant plus remarquable puisqu'ils étaient éclairés ici de manière directe et indirecte par cette colonne majestueuse et lumineuse réalisée par Carlo Vigarini, tout en bougie, qui permettait de créer des reflets assez séduisants. Alors, il est possible de comprendre, hein, grâce à cette estampe, qu'en plus des entre-fenêtres que vous avez ici au fond, hein, et là sur les côtés, les bustes prennent place sur des allèges, ici, le long, ce qui démultiplie forcément le nombre de bustes. Hein. Il est assez difficile d'estimer en 1665 quel était le nombre total des bustes sur ces façades. Alors, on remarque dès lors que la disposition des bustes n'a pas changé depuis la réalisation du tableau eh bien, de Pierre Patel. Ici, c'est la représentation, bon, quelque peu idéalisée, je vous l'avoue, de Versailles pendant la nuit du Medianoche, qui montre hein, finalement ce château à la fin des années 1660. Et Jules Ardoin-Mansart reconstruit intégralement la façade du fond de la cour de marbre en 78, presque deux décennies après, en y ajoutant deux bustes. Alors je m'explique pourquoi deux bustes. En effet, la façade de Levaux, que vous avez en haut à gauche, représentée avec le tableau de Pierre Patel, présentait huit bustes placés sur des trumeaux, ici au centre. Hein, on n'a pas encore le balcon central de la chambre du roi, bien entendu, huit bustes au centre, placés sur des trumeaux entre les cinq fenêtres, et deux bustes sur les allèges, on les a ici, le premier balcon étant inséré à la fin des années 1660. La disparition des deux volières en fer forgé que vous avez ici, que vous n'avez plus ici sur l'état Ardoin-Mansart, en ferronnerie, et le percement du coup de deux fenêtres à leur place, hein, vous les avez de chaque côté, permettent à l'architecte d'installer eh bien, quatre bustes, deux sur chaque trumeau, de chaque côté de ce balcon central qu'il crée en 78. Alors, du coup, on a quatre bustes supplémentaires, sauf que l'on peut considérer que les deux bustes des allèges ont été replacés de part et d'autre du balcon central, donc ce qui ne fait finalement que deux bustes à créer. Donc deux de ces bustes hein, peuvent correspondre, je vous le disais, à ces bustes hein, qui ont été supprimés des allèges. Alors, le bilan de la politique d'acquisition menée par Louis XIV est impressionnant, et le Mercure Galant en fait état au mois de juillet 82, eh bien, l'année de l'installation définitive de la cour à Versailles. Pour revenir, je cite, hein, pour revenir à tous les tableaux, bustes et figures antiques dont le roi a rempli les maisons royales depuis qu'il a pris le soin de gouverner son état lui-même, on peut dire que l'Italie est en France et que Paris est une nouvelle Rome. Alors, le nombre total de bustes sur les façades des cours, faisant de cet espace un véritable sanctuaire de l'antique, pendant cette période reste encore inconnu. Mais l'état général des ouvrages de sculpture placés dans les jardins de Versailles, bien que ce soit un inventaire sur les jardins, on mentionne les bustes, levé le 1er janvier 1694, mentionne eh bien 84 bus de marbre blanc dans les cours. Malgré tout, la provenance de ces nombreux bustes reste entièrement inconnue. Ils pouvaient être entièrement ou partiellement antiques, ou du moins considérés comme tels, ou bien entièrement modernes. Car au-delà de la fidèle copie, témoignant d'une vision, je dirais, puriste de l'Antiquité, les artistes de la fin du XVIIe siècle n'hésitent pas à interpréter, améliorer et corriger les œuvres antiques. Alors, l'inventaire général, vous l'avez ici, des groupes de figures, statues, termes, bustes, etc., placés dans les maisons royales, tant dans les maisons royales que les magasins, rédigé en 1707, mentionne 84 bustes également. Il décrit précisément chaque buste par une phrase laconique. D'une grande richesse, cet inventaire précise pour chaque buste son état de conservation, et c'est ce qui est véritablement précieux pour nous. Dès lors, il est possible de relever l'état général de la statuaire des façades, qui est parfois très lacunaire. Je vous en cite à la volée. Hein. Col cassé et menton emporté, haut de la tête jusqu'au front est cassé, un morceau de drap pris sur le devant est emporté, la joue gauche est cassée au travers de la bouche et du col. Bon, finalement, les parties saillantes, et donc les plus fragiles, sont brisées. J'ai réussi à dénombrer pas moins de 19 nez et 39 cols cassés. Quelques petites études statistiques qui m'ont amusé sur cet inventaire. Et suivant un même procédé, l'état des bustes de marbre blanc dans le château de Versailles, Parc, Marly et Paris dans la salle des Antiques, qui est malheureusement sans date, comporte de nombreuses ratures modifiant les textes respectifs de chaque buste. Je vous ai donné un exemple ici à droite. Et du coup, j'ai conclu qu'il s'agissait d'un inventaire préparatoire à celui de 1707, puisqu'on retrouve mot pour mot les mêmes descriptions sans les ratures. Donc il s'agit là d'un brouillon à 1707. Malheureusement, les auteurs de ces inventaires n'ont laissé aucune indication afin de connaître leur démarche topographique. En effet, il est impossible de savoir par quel buste les auteurs ont débuté et quel cheminement ils ont choisi. Alors, en 1722, l'année du retour de la cour à Versailles, un autre inventaire est rédigé par François-Benoît Massou. Je vous ai mis le titre complet à gauche, dont je vous épargne la lecture parce qu'il est extrêmement grand. Mais bon, on a bien l'année, les derniers mois de l'année 1722 qui sont mentionnés, et surtout l'auteur. C'est assez rassurant pour nous, le sieur Massou, sculpteur de Sa Majesté. Alors, ce recueil, relié en maraquin rouge aux armes de France, est composé de 417 pages et recense l'ensemble du décor sculpté des maisons royales. Il est commandé par le duc d'Antin, le nouveau surintendant des bâtiments au retour de la cour à Versailles, et cet inventaire avait pour principal objectif de faire un état des lieux de l'ensemble des maisons royales. Chaque buste y est décrit avec un constat d'état, ce qui pourrait expliquer, je vous ai donné un exemple ici, le choix du sculpteur Massou pour la rédaction de l'inventaire. Je vous ai mis un exemple, ce buste, le VDSE 153, qui a été mécéné par l'un d'entre vous, il me semble, qui est décrit, c'est le troisième trumeau du dessous, un buste de femme portant le regard du côté droit, coiffé de ses cheveux, ayant une bandelette sur la tête, le corps couvert d'une draperie légère, sur son pied douche de marbre de couleur. Alors, ce recueil donne une description topographique des œuvres du roi. Et la gravure de Louis sur Hugues, représentant l'entrée des escaliers des ambassadeurs entre 1721 et 1728, ne montre aucun buste mutilé. Donc on a bien ici une représentation idéalisée de la façade nord. L'emplacement des bustes de la gravure ne semble pas correspondre à l'ordre établi dans l'inventaire, mais elle permet d'illustrer certains bustes connus par leur seule description. On peut trouver également certaines illustrations de ces bustes dans les planches de dessin des différents recueils des fonds Robert de Cotte conservés à la Bibliothèque nationale. Alors la section véritablement précise concernant les 84 bustes des façades de cet inventaire concerne les tout premiers feuillets. C'est assez intéressant, contrairement aux inventaires des jardins où on place toujours les bustes des façades en dernier, là ils occupent les premiers feuillets, feuillets 1 à 19, et de façon méthodique, l'auteur décrit avec forte précision l'ensemble des bustes en débutant par l'avant-corps du fond de la cour de marbre juste ici, hein, en commençant par les quatre bustes au-dessus du balcon du roi, puis ensuite les quatre bustes en dessous du balcon, et ensuite trumeau par trumeau, en commençant par la droite, puis par la gauche, en remontant les 22 trumeaux jusqu'à l'entrée de la cour royale. Alors, les constats d'état présents dans les descriptifs de l'inventaire ont probablement permis d'engager des restaurations des bustes les plus endommagés. C'est comme ça que quelques années plus tard, Jean Hardy réalise ce qu'on appelait au XVIIe siècle une revue de tous les bustes de marbre dans les cours. Il fait rapporter, je vous l'ai mis ici dans son rapport, les rapporter 8 autres, puisqu'il en fait déposer un certain nombre qui manquait de tomber. Et on voit bien que Louis XIV n'aurait jamais toléré des consoles vides comme aujourd'hui. Et on rapporte des magasins, 8 bustes pour remplacer ceux qui ont été déposés, pour surtout pas laisser de console vide et que ces échanges ne paraissent inaperçus. Alors le même Hardy est chargé de restaurer et de remettre en place différents bustes de marbre dès 1726, et jusqu'à la fin du 18e, l'entretien, les mouvements des bustes restent inconnus. C'est un grand trou, je dirais, dans l'histoire des décors sculptés extérieurs, du moins côté ville. Alors, on arrive à la Révolution française et l'ensemble des bustes est déposé en 1792. L'inspecteur général Jean-François Heurtier charge les sculpteurs Jules Hugues et Jean-Siméon Rousseau, je vous l'ai mis ici, de déposer la première moitié des bustes du 10 au 15 septembre pour le côté nord, et vous l'avez ici, l'autre moitié du 15 au 21 septembre. Alors tous les bustes sont déposés dans le magasin du roi, et les registres des magasins des vitriers, c'est tout à fait intéressant, puisque visiblement on n'a pas été chercher bien loin un magasin de sculpture. On prend le magasin le plus limitrophe à la cour de marbre, c'est le magasin des vitriers. Et les registres des magasins prouvent bien l'entrée et la sortie en 1807 de ces bustes. Vous en avez, c'est l'avant-dernière ligne, buste de la cour de marbre, 16. Ils sortent au mois de mars 1808. Il faut attendre le retour de Louis XVIII et de la monarchie pour entreprendre une grande campagne de nettoyage et de restauration en 1814-1815. C'est l'architecte Alexandre Dufour qui est chargé de la plus grande partie des travaux, aidé par Augustin Fortin, son sculpteur, attitré. Le mémoire que le sculpteur remet à l'architecte en 1815 détaille la restauration des 68 bustes. Alors, je ne vais pas ce soir vous en donner une liste exhaustive, mais certaines descriptions permettent de mieux comprendre les interventions réalisées. J'en ai pris deux, non pas au hasard, mais un masculin et un féminin qui sont assez représentatifs de ce rapport. Pour une dame romaine, lui avoir remis un nez, rapporté la tête, remis par derrière un grand morceau de draperie, avoir refait toute la partie uniforme de la tête, une oreille et une masse de cheveux, bougeonnés, plombés, mastiqués, mis un piton derrière. On se demande bien ce qui pouvait rester de ce buste sur les façades, parce que Augustin Fortin, on a un petit peu l'impression qu'il recrée complètement les bustes, alors cette fois-ci in situ. Alors au même moment, Bernard Lange est chargé de restaurer les statues de la balustrade de la cour de marbre, ainsi que de restaurer en marbre 16 bustes auxquels ont été refaits 9 pieds douche. On voit bien que Fortin fait les restaurations les plus consolidaires, où il manque énormément de pièces. Et puis pour ceux qui sont vraiment limite en poussière, on fait appel à Bernard Lange qui reprend, remastique et resculpte complètement tous les bustes. Alors le sculpteur est rémunéré de façon plus importante, puisque ses bustes étaient en bien mauvais état. À plusieurs reprises, on peut voir que des têtes doivent être intégralement changées à cause de leur état de dégradation. Et ici encore, la pratique de l'application de têtes rapportées sur des bustes est courante. On est au tout début du 19e siècle et on ne rechigne pas à changer complètement de tête si une est trop difficile à restaurer. Alors ces restaurations semblent se poursuivre de façon sporadique pendant toute la première moitié du 19e. Amable Boichard, autre sculpteur, qui avait été associé, c'est l'anecdote hein, qui montre bien l'esprit de l'époque, qui avait été associé en 1794 à la destruction de tous les symboles royaux de Versailles, eh bien revient à la restauration, change de camp quelque part, et fut chargé de la restauration du buste d'Antinous se trouvant encore aujourd'hui dans la cour de Marbre. Donc, pas de rancune pour le sculpteur, et il reprend donc un certain nombre de bustes. Alors, jusqu'en 1850, trois inventaires généraux des musées royaux attestent de la présence des bustes sur les façades des cours, qu'elles soient hein, de marbre ou royal. Il est particulièrement important de remarquer que ces bustes sont dès lors classés eh bien, dans la rubrique des sculptures modernes. Alors, on voit bien que leur caractère antique, qui prévalait hein, au siècle précédent, a totalement disparu. On n'ose plus parler d'antiquité à Versailles et on met tous ces bustes, malgré le fait qu'il y ait des fragments d'antique, comme des créations modernes, donc du XVIIe et du XVIIIe siècle. En 1824, l'inventaire répertorie 12 bustes de personnages romains, dont la tête est en marbre blanc et le corps en marbre rapporté de couleur, et 72 bustes eh bien, de personnages romains non différenciés en marbre blanc. On a un grand flou artistique hein, sur cet inventaire. On est assez content qu'il mentionne 84 bustes, mais on ne sait ni les auteurs, ni leur provenance. Alors, l'inventaire suivant, celui de la liste civile de Louis-Philippe, rédigé en 1832, fait état de la même répartition et on ne change rien avant la fin du 19e siècle. En 1886, Charles Gosselin et Alfred Leclerc, qui sont respectivement conservateurs et architectes en chef du palais de Versailles, constatent eh bien, les dégradations de nombreux bustes placés sur les façades. L'architecte demande dans un rapport eh bien, d'examiner si l'administration des Beaux-Arts ne pourrait faire remplacer un certain nombre de bustes en marbre qui décorent la façade du palais de Versailles et qui tombent en ruine. On voit bien ici cette idée hein, qui tombe en ruine et qui va revenir, je dirais, jusqu'à nos jours. L'état délabrement des bustes a été diagnostiqué hein, lors de leur dépose dans les magasins de Versailles et c'est Albert Kampfen qui propose l'idée de la réutilisation des bustes détériorés pour effectuer des reproductions. C'est la première fois qu'on ne décide pas de changer intégralement ces bustes, mais bien de reprendre le type artistique et d'en refaire de neuf sur ces modèles. Alors du coup, le constat d'état réalisé par Gosselin et Leclerc est détaillé hein, dans une missive du mois de mars, voilà, je vous l'ai mis, du mois de mars 1887, 8 bustes mesurant 75 cm de hauteur étaient placés au rez-de-chaussée, etc. Sur ces 8 bustes, 2 sont hors de service, c'est intéressant d'appliquer cette idée d'hors de service à des œuvres artistiques, ils doivent être refaits, 6 doivent être restaurés. Sur les 8 autres bustes placés au premier étage, je mesure, 3 sont à remplacer et 5 à restaurer seulement. En résumé, sur les 16 bustes qui décorent la façade, 5 sont à refaire complètement et 11 à restaurer. Alors, on a le détail hein, de ces différents bustes. Sur ces 5 bustes à refaire intégralement, eh bien, les 5 sont identifiables. C'est assez intéressant grâce à la commande des 5 moulages passés en 87 à l'atelier des moulages du Louvre, hein, l'ancêtre de la Réunion des musées nationaux. On identifie eh bien, Faustine la Mère et la Jeune, Jules César, Geta et Claudius Albinus. Je dirais les archives nationales ont eu l'intelligence de garder toutes ces commandes qui sont aujourd'hui à Pierrefitte et du coup les artistes sont parfaitement identifiés, contrairement à tous les autres bustes. On sait qui crée ces bustes, Chambard effectue la reproduction en marbre du buste de Faustine la Mère, placé sur les façades du château, hein, vous l'avez ici en bas à gauche, VDSE 114, dont l'original est au Louvre. Je vous ai mis la représentation que Clara Canfet dans son recueil des œuvres antiques du Louvre, donc toujours en haut à gauche. Princé effectue la reproduction en marbre du buste de Faustine la Jeune, en bas à droite, dont l'original au Louvre est en haut à droite. Victor Bertrand effectue la reproduction en marbre de Jules César, dont l'original n'a pas été identifié au Louvre. Saint Joly effectue la reproduction de Geta, que vous avez ici. C'est la même composition, hein, le buste actuel sur les façades en bas et le buste dessiné par Clarac, donc aujourd'hui au Louvre, en haut. Pierre-Bernard Prouat effectue la reproduction en marbre du buste de Claudius Albinus. Et en plus de ces deux bustes, les consoles de la cour de marbre sont vérifiées avant de pouvoir y replacer les nouveaux bustes afin de ne pas avoir deux déposes, deux restaurations différentes. La restauration des bustes des façades de la cour de marbre et de la cour royale se poursuit en 1889 et elle s'accompagne d'une reprise des consoles de la cour royale, excepté les retours nord et sud, donc simplement les façades latérales. Cette intervention s'accompagne d'un nettoyage des bustes en marbre restant encore sur les façades et de la restauration de sept d'entre eux sur lesquels, eh bien, encore une fois, nez, oreilles, le scellement des pieds douches sont refaits. C'est Marcel Lambert, nouvel architecte de Versailles, qui expose dans son rapport qu'il serait particulièrement intéressant, en vue de l'exposition universelle, d'achever la restauration de toutes les façades en briques et pierre et de tous les motifs de la cour royale. On voit bien que c'était une décision politique et culturelle, voire d'actualité, de restaurer tous ces bustes. Alors, cet architecte de Versailles rappelle, je cite, que l'administration des Beaux-Arts avait désigné au Louvre les antiques qui pouvaient être copiées. Donc, il fait référence à la campagne de restauration qu'on vient de voir. Par exemple, des empereurs romains, des impératrices, des hommes célèbres, et on pourrait donc procéder de même pour les nouveaux bustes. Donc, du coup, il en donne une liste exhaustive au mois de mars 89, précisant leurs dimensions et leurs numéros d'inventaire au musée du Louvre. Alors, les reproductions doivent normalement respecter l'échelle de l'original, c'est la règle, je dirais, bien que l'architecte se réserve le droit de faire part au sculpteur d'indications bien précises sur les mesures qu'ils devront observer, car, je cite, « les dimensions des bustes qu'ils auront à reproduire varient dans des proportions assez sensibles ». On verra pour l'exemple de la Rome de la Villa Borghese, il divise pratiquement par deux la taille du buste. Alors, de façon analogue à la première phase de restauration, les bustes originaux qui sont à reproduire sont conservés au musée du Louvre. Je vous les ai tous mis ici. Paul Aubert réalise dans un marbre de Saint-Béat, c'est tout à fait intéressant, on a la provenance et le type de marbre de préciser, le buste de Vespasien. Victor Bernard, qui avait déjà sculpté, je vous le rappelle, le buste de Jules César, réalise la reproduction du buste de Rome dit du Louvre. Jean Buat réalise la reproduction en marbre d'Elus Verus, c'est-à-dire un Lucius Verus, qui n'a pas pu être identifié. Carlet réalise un buste de Bacchante dont l'identification est particulièrement difficile aujourd'hui. Fèvre réalise la reproduction d'un buste de femme inconnue. Moncel réalise cette copie de l'Achille Borghese que vous avez en haut à droite. Saulier, le buste d'Adrien en bas à gauche. Péchinet, un buste de Pallas que je n'ai pas identifié. Grandin réalise ce buste de la Rome de la Villa Borghese. Et Gustave Lefranc réalise un buste d'Ajax ou Ménélas que je n'ai pas identifié non plus. Alors, une série de trois photographies, et là ce n'est plus les archives nationales, mais le service des archives du château de Versailles qu'il faut féliciter, a gardé ces trois photographies qui permettent de connaître l'emplacement choisi pour certains de ces bustes et par conséquent leur état de conservation. Alors, sur celle-ci, le buste de Rome, réalisé par Lefranc, que je vous ai encadré, est placé donc sur la façade, en retour de la cour royale, côté nord, sur la première console, en bas à gauche. C'est ainsi qu'on distingue les deux têtes de Louvre sur le casque de l'allégorie, qui auront disparu sur les photographies du XXe siècle et encore jusqu'à aujourd'hui. Sur le même trumeau, à l'étage, vous avez le buste d'Adrien, que j'ai cité auparavant. Le buste d'Achille par Moncel est présent sur le second trumeau à l'étage. On distingue très mal, je l'avoue, la petite coiffe sur son casque. Et un buste de femme romaine qui est représenté au Redcourt, qui est un ancien buste puisqu'il n'a pas été reconstitué dans cette campagne du 19e. Alors, la qualité de la photographie, quand on l'a sous les yeux, puisque là je ne peux pas affirmer ça ce soir, permet de distinguer les nouvelles reproductions en marbre qui sont d'une grande blancheur avec les bustes déjà présents sur les façades. On arrive quand même, si on compare les deux retours, on voit bien que les deux bustes du fond, du bas, sont beaucoup plus noircis que ceux que je viens de présenter. Et à plus forte raison, il est possible de connaître l'état de conservation d'un buste de femme, voilà, que vous avez ici, de près. Il s'agit du buste qui est juste ici, sur le deuxième trumeau en bas. Faites-moi confiance, hein, c'est bien celui-ci. Et c'est une documentation donc très importante puisque le stade de dégradation de ce buste en 1980 est considérablement avancé. Et du coup, c'est le dernier témoignage d'un état plus ou moins correct. Et le buste a d'ailleurs disparu. Donc c'est quasiment le seul témoignage à ce jour que l'on conserve sur ce buste. Alors, la seconde photographie présente la façade eh bien, du fond de la cour de marbre et on y différencie le buste de Faustine la Jeune, ici sur le premier trumeau du fond, et de Faustine la Mère, de profil, juste ici. Les bustes de l'étage sont également identifiables, hein, trois d'entre eux ne pourront être réutilisés lors de la campagne de restauration eh bien, des années 80, ce qui montre bien, je dirais, que la façade du fond de la cour de marbre est peut-être la façade qui a le plus mal vieilli. La troisième et dernière photographie présente le retour de la cour royale côté sud, où les quatre consoles demeurent vides. La présence de la tourelle, construite entre novembre 1841 et février 1842, voilà, par Louis-Philippe, pour aménager une galerie de communication entre les deux ailes de son musée d'histoire de France, permet de dater ces clichés sur papier abuminé, où apparaît, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, sur les trois photographies, l'architecte Marcel Lambert de Versailles, qui s'est fait représenter à chaque fois sur ces façades, eh bien, qui permettent donc du coup de dater ces clichés des années 1890-1897. Alors, à la même époque, Léon Jousse, qui est un serrurier, fournit 8 crochets ronds en cuivre. Ces crochets servent à fixer les bustes aux façades. Et ces nouveaux crochets peuvent correspondre eh bien, à la livraison des nouveaux bustes que nous avons vus précédemment avec Adrien. En effet, l'année 1893 marque eh bien, la dernière phase d'achèvement de la restauration des façades et plusieurs commandes sont de nouveau passées pour fournir des bustes représentant des empereurs romains après avoir réparé le buste déposé ou s'en servir de modèle. Je vous le disais, c'est une des premières campagnes où on reprend pour modèle le buste abîmé. Il ne s'agit plus donc de trouver de nouvelles représentations d'empereurs, mais de garder ce buste dans un souci de conservation, d'intégrité des façades côté ville. Alors, Jacques Ternois doit ainsi exécuter un buste en marbre destiné à être placé au premier étage de la cour de marbre, je cite, « conformément à un ancien, compris réparation de ce dernier, destiné à servir de modèle, selon eh bien, son mémoire réglé le 18 décembre ». Alors, en 1898, une note précise, en réponse à certaines réactions de la presse écrite, que, je la cite, hein, « les sculptures restaurées ont été le plus possible dans le caractère et ce sont des sculpteurs statuaires de grande valeur qui ont travaillé à ces sculptures. Il est évident que les artistes de l'époque de Louis XIV auraient mieux donné le caractère que ceux de nos jours, mais les résultats obtenus sont des plus intéressants et sont consciencieux. » C'est assez intéressant comment Marcel Lambert a dû jongler un petit peu avec la presse de l'époque qui commençait déjà à dénoncer quelques restaurations abusives sur les façades de Versailles. Alors, la fin du 19e est majoritairement consacrée à la restauration intérieure du château et à la préparation de l'exposition universelle, ce qui explique que l'on n'est plus du tout d'intervention sur ces façades. Alors, de fait, on passe au XXe siècle et les nécessaires travaux d'entretien des façades reprennent dans le deuxième quart du XXe siècle. C'est Pierre Bonnet qui était le nouvel architecte en chef, à la suite de Marcel Lambert, qui débute en 1925 un grand chantier de restauration du château. En 1963, une nouvelle campagne de consolidation et de restauration des bustes est inscrite. Sur le budget et sur l'état, je cite, des options annuelles absolument indispensables dans le domaine de Versailles. On voit bien que en 63, l'état des façades était de nouveau catastrophique. Du coup, j'ai pu retrouver certains devis qui précisent donc, l'utilisation d'un échafaudage tubulaire roulant, hein, je vous passe les détails, qui est utilisé afin de consolider les bustes et leurs socles, dont certains menacés chutes. Hein. Je vous le disais, on va retrouver cette constante jusqu'à nos jours, ainsi que de leurs moyens de fixation. Alors, les attaches de plomb fixées dans la partie postérieure du buste et dans le mur de la façade, maintenant l'aplomb des bustes et sur leur socle, sont également vérifiés et remplacés au cas par cas par des attaches en cuivre rouge lorsqu'elles sont défectueuses. Alors, afin de consolider les bustes fendus, menaçant de tomber, il est prévu de poser également des agrafes en cuivre rouge incrusté dans le marbre qui sont scellés, on les retrouve encore aujourd'hui hein, lorsqu'on dépose certains bustes, avant de procéder à un raccord d'uniformisation en ciment marbre spécial. C'est aujourd'hui ahurissant d'utiliser ces matériaux et ça fait dresser les cheveux du restaurateur actuel de Versailles puisque c'est un matériau extrêmement délicat et difficile à séparer du marbre original. Alors le devis ne concerne que 80 bustes et du coup il n'est pas fait mention des 4 bustes manquants, probablement des bustes qui seraient tombés avant ou pendant la campagne, comme l'atteste cette photographie que je trouve tout à fait spectaculaire. Représentant, il y a un buste au sol, près des grilles dorées de la cour royale, totalement disloqué après avoir éclaté au moment de sa chute au sol. Cette photographie est d'autant plus remarquable et intéressante que la tête, seul fragment ayant survécu au choc et qui est encore conservé, je l'ai retrouvé lors d'une campagne de récollement en 2014, encore conservé à la réserve dite de la Poulinière, possède encore eh bien, son goujon ferreux sur la photo et c'est ce qui montre bien comment le cou et le début du buste a intégralement éclaté. Son attache eh bien, est rongée par la rouille et son pied de douche, vous l'avez ici, est fendu en deux, ce qui montre bien ici que le marbre a éclaté en plein de petits morceaux. La campagne de restauration de 1963 apparaît très vite comme insuffisante et l'état des bustes au début des années 1980 est préoccupant. Alors, nombre de photographies, maintenant en couleur, dont je vous donnais un exemple ici sur le fond de la cour de marbre, alors celle-ci je crois de l'année 1972, soit moins de 10 ans après la restauration des bustes hein, quand même, les montres eh bien, considérablement noircies et des consoles qui sont de nouveau vides de leurs bustes. Plus encore, elles montrent l'emplacement des bustes qui disparaîtront au moment de la restauration des années 80. Les travaux d'architecture eh bien, prévoient dans un même programme la restitution du niveau initial de la cour de marbre que Philippe, je vous le rappelle, avait fait abaisser, et c'est ce qui explique ici les différences de niveau avec l'intérieur, le vestibule de la cour de marbre, la restauration de la statuaire en pierre des façades et des bustes, ainsi que la statuaire de la chapelle royale. Alors, l'ensemble des bustes est déposé une nouvelle fois, hein, ça n'avait jamais été fait depuis la Révolution française, lors des travaux de ravalement, et ils sont visibles dans les magasins de la conservation du domaine national, où visibles hein, par chaque restaurateur afin de pouvoir candidater par un marché public à leur restauration. Alors le dossier expliquant la campagne, qui est assez gros, est conservé ici au service d'archives du château, prévoit une intervention sur 41 bustes. Il énumère les différentes lacunes de chacun, les travaux à effectuer sont d'une grande diversité, hein, encore une fois, les pieds douches sont à recéder, buste ou draperie à reprendre, tête à remodeler intégralement, buste fendu à remastiquer, tête à refaire entièrement, tête en très mauvais état, à restaurer 6 photos modèles, c'est tout à fait intéressant qu'on prenne ici non plus le buste original mais des photos modèles, ou encore réfection intégrale, on ne se pose pas le souci de l'intégrité des bustes, s'il en manque, on en refait. Alors c'est l'architecte en chef Jean Dumont qui propose une répartition des 30 premiers bustes entre les sculpteurs Paul Delval et Charles Duvernay. Et on constate qu'un certain nombre de bustes nécessitent une attention particulière. Selon ce rapport, leur tête était dans un état de dégradation tellement prononcé qu'il n'était guère possible d'envisager leur copie, compte tenu qu'il n'existait qu'il n'existait pas dans nos archives des photos anciennes qui rendent compte de ces têtes avant leur dégradation. Alors, je ne sais pas comment l'architecte a fait ses recherches, puisque j'ai retrouvé ces photos. Donc, il y avait quelques problèmes sûrement de centralisation d'informations. Je poursuis. Il est proposé de remplacer ces têtes par des copies des têtes antiques choisies parmi la série des empereurs romains que possède le musée de Versailles. Alors, on ne va plus chercher au Louvre ce que l'on a au château, et on choisit les propres collections de Versailles. Alors, une première remise en place des bustes est effectuée au mois de février 1983 par l'entreprise Chapelle. C'est quelque part assez émouvant de considérer que l'entreprise travaille toujours pour le château aujourd'hui. Donc, qui était chargé à l'époque des travaux de ravalement des façades. Une étude préalable réalisée pour l'occasion permet de comprendre la démarche de l'architecte. Ce dernier s'appuie sur des documents photographiques conservés au musée, sur des plaques de verre, sur des reproductions de Pierre de Nolhac et sur des gravures anciennes. L'architecte constate peu de changements entre les planches de Nolhac et les photographies. Ce sont probablement des clichés illustrant la publication de Gaston Bruguière, qui est datée des années 1907-1909, ce qui explique le manque de changement vu la proximité des différentes datations des documents. Alors, le même architecte remarque beaucoup plus de changements entre ces clichés et des représentations de la deuxième moitié du XXe siècle, époque de la grande restauration des années 1963, de la voie. Alors, le parti retenu est celui d'un retour à l'état historique, connu le plus ancien, comme aujourd'hui finalement, bien qu'il semble que ce soit plutôt celui le plus documenté, et non pas le plus historique, qui correspond à celui de la période Pierre de Nolhac à la toute fin du XIXe siècle. Alors, un véritable jeu de chaises musicales se met dès lors en place, chaque buste devant prendre la place d'un autre, et le problème des bustes en trop ou en trop mauvais état se pose immédiatement. De plus, les bustes dont l'état ne permet pas de les replacer sur les façades, ni d'en prendre une empreinte, laissent nécessairement leur console vide. C'est le cas du buste d'empereur, dont il ne subsiste qu'un fragment du centre de la cuirasse et de la tête. Il était placé sur la deuxième console, en partant de la gauche, au-dessus du balcon de la chambre du roi. Donc, comme quoi, je vous le disais, ce sont les bustes qui ont le plus souffert des intempéries, ceux de la chambre du roi. Son état est sûrement dû à une chute à cause de ce buste complètement saccharoïde. Il a dû se disloquer, partir en petit grain de sucre et ne plus pouvoir tenir sur sa console. Contrairement à celui qui est tombé tout à l'heure, je vous le montrais, celui-ci conserve encore son appui sur son pied douche. Alors, la campagne photographique menée par l'entreprise Chiquet au moment de la dépose des bustes en présente un certain nombre qui n'ont pas été replacés sur les façades et qui ne sont plus localisés aujourd'hui malheureusement. C'est le cas du buste de femme romaine, on l'a vu tout à l'heure, vêtu d'une draperie probablement de marbre de couleur, qui ne retourne pas sur les façades après la restauration pour une raison un peu inconnue, alors qu'elle était encore visible sur sa console dans la première moitié du XXe siècle. On l'a vu sur la photographie sur papier luminé tout à l'heure. Alors, ces photographies présentent également des éléments en très mauvais état qui ont été réutilisés pour partie afin de reconstituer certains bustes. Une forme de ce recyclage artistique, et on ne crée pas intégralement tous les bustes, on reprend certains fragments que l'on intègre dans des créations contemporaines. Alors, le cahier des clauses techniques particulières de l'époque permet de comprendre les techniques employées pour cette phase de la campagne. Il s'agit de restaurer et remonter 9 bustes en marbre provenant de la cour royale, à en reconstituer 5 autres à partir de modèles fournis, dont 3 par reproduction en résine polyester boulée et 2 par sculpture d'un bloc de marbre. On voit bien qu'on choisit soit le moulage, soit la création complète à travers un marbre, non pas de Carrare, mais de Saint-Béat. L'entreprise Chiquet est chargée d'intervenir sur 2 bustes en très mauvais état, grâce à un durcissement des marbres de surface, avant de procéder au complément, au plâtre, afin de réaliser une prise d'empreinte à l'élastomère et faire un tirage à la résine chargée de poudre de marbre. Alors, c'est probablement le cas de ce buste de femme que la photographie à gauche de l'atelier Chiquet présente en très mauvais état et que l'on retrouve à l'état restauré, moulé. Il est assez difficile de savoir ce que c'est vraiment avant de le déposer. On le retrouve eh bien, aujourd'hui à l'étage, sur le côté sud de la cour royale, sous ce qui semble être une forme de copie. Alors l'architecte en chef fait appel pour la restitution totale en poudre de marbre d'après un modèle de trois bustes au sculpteur Charles Vaillant. C'est assez intéressant puisque Charles Vaillant est, c'est assez bizarre de le dire comme ça, mais le dernier sculpteur encore vivant qui a travaillé sur cette campagne et qui a bien voulu répondre à mes questions pour connaître un petit peu plus ses travaux sur ces trois bustes. Il reçoit au mois de mai 86 trois bustes devant servir de modèle et conserver à la grande écurie du roi sous la gestion de Simone Besque-Mollard qui était à l'époque conservateur des monuments antiques. Alors, il s'agit d'un buste d'Épicure, de Trajan et de Caracalla. Vous avez les copies en marbre dits originaux en haut qui sont aujourd'hui à la gypsothèque. Et en bas, les copies que Charles Vaillant a réalisées, qui sont actuellement sur les façades. Alors, ce sont des plâtres, je vous le disais, de l'ancienne école des Beaux-Arts, sur lesquels ont été réalisées des copies en résine armée, recouvertes d'une couche de résine chargée de poudre de marbre. C'est assez intéressant, puisque celui d'Épicure a déjà été déposé à l'atelier, c'est celui tout en bas à gauche, et il est creux, puisque c'est simplement une résine résine armée recouverte de poudre de marbre. Et du coup, le fait qu'il soit creux et la légèreté des matériaux utilisés m'a permis de le soutenir dans une seule main. Contrairement au buste où il faut être un voire deux installateurs, celui-ci est totalement creux et il est d'autant plus fragile puisqu'il est creux. Alors, son témoignage, je vous le disais, a permis d'identifier la copie du buste d'Épicure qui a été réalisé sur cette version en plâtre d'un buste du musée du Vatican. Donc par définition, tous les bustes de la gypsothèque sont des copies assez souvent de musées italiens réalisés au 19e par l'ancienne école des Beaux-Arts. Alors nous arrivons à la fin du 20e siècle et au début du 21e. Rien ne se passe, je dirais, jusqu'à 2014. Et en juin 2014, la direction du Musée national de Versailles initie une étude préalable à la campagne de restauration de ces 84 bustes, déposant de façon préventive 15 d'entre eux qui ne tenaient plus, pour ainsi dire, que par la force de l'habitude. Alors, la campagne, je vous le disais, se déroulera sur plusieurs années par phases successives. Afin de ne pas priver trop longtemps le public de ce décor sculpté assez exceptionnel. Alors, par le caractère unique de l'inventaire rédigé par Benoît Massou, il a été décidé, en accord avec la conservation, que ce document permettrait de restituer l'état 1722, et non pas l'état Pierre de Nolhac, comme nous l'annonçait Marcel Lambert tout à l'heure, des bustes de la cour de marbre et la cour royale. Alors, l'étude que j'ai réalisée avait pour but de trouver, ou plutôt de retrouver, les bustes correspondant aux descriptions de l'inventaire de Massou. Il est très vite apparu que le dispositif actuel ne correspondait pas à ce document. Aucun buste ne correspond donc à son bon emplacement, et il a également permis de déterminer que certains bustes ne sont actuellement pas présents sur les façades. Il nous en manque, certains sont en réserve, d'autres ont disparu, et ça pose un certain nombre de problèmes. Du coup, six cas de figure ont été arrêtés et relevés. Je vous les énumère. Le buste se trouve actuellement sur les façades et doit simplement être replacé sur sa bonne console après restauration. C'est le cas le plus simple. Le buste présent sur les façades ne correspond à aucune description de l'inventaire. Il sera donc placé en réserve. Le buste décrit par le document est actuellement en réserve. Il doit donc être replacé sur les façades. Le buste est identifié par des clichés postérieurs, mais pas encore localisé. Il y a une petite nuance. Et le buste est identifié, mais détruit. Et encore, le buste n'est actuellement pas identifié. Six cas de figure qui compliquent considérablement la tâche, puisque même s'il y a 84 bustes sur les façades, j'ai dû étudier plus d'une centaine de bustes pour pouvoir arriver à un programme assez concordant avec l'inventaire de 1722. Cette entreprise de recherche est encore en cours, je l'avoue, et une petite dizaine de bustes restent à identifier. Alors, pour vous dévoiler ma méthode de travail, j'ai commencé par comparer que l'on avait sur les façades, à travers la base Versailles décor sculpté extérieur, publiée par Béatrix Saul en 2005, puisqu'il était difficile d'établir un échafaudage in situ et de prendre des clichés sur place. J'ai ensuite procédé à la recherche des bustes manquants dans les réserves, je vous disais, du Musée national, et ce qui m'a permis de découvrir certains bustes et du coup la fameuse tête du buste tombée dans les années 60. J'ai dû donc examiner tant les bustes que les fragments. On a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de morceaux de bustes qu'il fallait expertiser pour savoir si ils pouvaient aller sur un buste un jour entre 1722 et aujourd'hui. Enfin, une recherche dans d'autres musées et châteaux a été menée afin de trouver des équivalents aux bustes manquants ou détruits. Alors, pour en faciliter la lecture de cette étude, l'ensemble des résultats a été présenté dans un tableau dont j'ai extrait ici une des pages. C'est assez simple, j'ai créé une codification numérique dans la colonne de gauche, F5 pour la fossette du fond, en commençant par le premier retour sur la cour royale au sud, la description de Benoît Massou, retranscrite, le buste en place actuellement, et la proposition de correspondance que j'établis. Et du coup, certains exemples sont significatifs. Le buste de Dame Romaine, que vous avez ici, était placé sur la façade nord de la cour royale, à l'étage, sur la sixième console en partant de la gauche. Il a été déposé au moment du lancement de la campagne de restauration, afin de bénéficier d'une simple restauration à l'époque, et le responsable de l'atelier de restauration des sculptures du château a pu ainsi établir que la tête de la dame était antique. On est pour le coup sur un exemple attesté d'une tête antique montée sur un buste moderne, probablement du XVIIIe siècle. Elle a été installée, donc cette tête, sur un buste moderne grâce à un montage au plâtre, ce qui est assez catastrophique d'un point de vue conservation. C'est visible par les craquelures ici, et le marbre ne se noircit pas autant que le plâtre. Une ancienne reconstitution en plâtre de mauvaise facture réalisée au niveau de ses cheveux et un fragment de nez avaient été rajoutés et ont été déposés. Vous avez ici les deux fragments déposés. On voit bien qu'il y a eu un goujonnage de réalisé pour faire tenir ces deux éléments en plâtre, ainsi que la tête. La tête ne tient que par le goujon, ici sur cette photo. Ce buste est d'une telle fragilité qu'il ne doit plus être exposé aux injures du temps et aux intempéries. Et du coup, on a décidé de procéder à une prise d'empreinte, puisque c'est un buste qui doit retourner sur les façades. Donc il faut, faire coïncider les normes de conservation avec l'inventaire de 1722. Donc une prise d'empreinte à l'élastomère a donc été réalisée afin d'établir un tirage en résine chargé de poudre de marbre. Donc c'est exactement la même technique que pour les sculptures du parc. Sébastien Force, le responsable de l'atelier, utilise exactement la même technique. Et du coup, il a dû restituer ici la partie droite de la chevelure, le nez, et remonter le cou sur des matériaux, grâce à des matériaux réversibles, qui pourront être démontés si besoin est pour conserver la tête seule d'un côté, puisqu'elle est antique, elle a une réelle valeur historique, le buste, le bas du buste un peu moins, puisqu'il est difficile de dater un plâtre. Donc ce nouveau buste en résine sera placé sur la façade, au fond de la cour de marbre, au rez-de-cour, sur la deuxième console. Alors, je vous précise à chaque fois les localisations pour bien voir que là, contrairement à où elle a été déposée, ce buste traverse les deux cours pour retourner à son bon emplacement de 1722. Et l'inventaire décrit, je cite, « un buste de femme dont la tête est antique », donc comme quoi Massou ne s'était pas trompé, et on a pu le vérifier in situ. Donc la tête est antique jusqu'au dessous du menton, ce qui explique ce joint, cet avantage. Inclinant sur l'épaule gauche, le morceau de draperie qu'elle a sur l'épaule droite, sur laquelle est un bouton, vous me ferez confiance, il est là, on le voit à peine ici. Le morceau de draperie qu'elle a sur l'épaule droite, sur laquelle est un bouton, lui couvre la mamelle droite et passe sous la gauche. On ne le voit pas là, mais on le voit là. Là, juste ici, et le bouton ici. Laquelle est tenue, son pied-douche est de marbre blanc, on conservera donc ce pied douche. Alors, comme il était et comme il était, je dirais, le plus artistiquement possible, en suivant simplement Sébastien Forst, a suivi les courbes du nez et a établi un triangle parfait. Alors le buste de Rome, du type de la Villa Borghese, on l'a vu, hein, je vous le rappelle, qui a perdu ses deux têtes de louve sur son casque, est une reproduction en marbre réalisée en 1890, qui a finalement assez bien vieilli, par le sculpteur Gustave Lefranc, et il ne correspond à aucune description du document de 1722, aucun buste de Rome, hein, véritablement, et sera donc placé en réserve, visitable, après sa restauration. Une recherche approfondie dans les réserves du château, hein, consistant, je vous l'ai dit, en l'expertise de chaque buste et de chaque fragment conservé dans le bâtiment, dans la réserve que l'on appelle la Poulinière, a permis d'identifier le buste de Dame Romaine, ce MV 7483, mécéné par les amis de Versailles, qui correspond à la description de l'inventeur. Et le buste est d'une grande importance car c'est le seul qui est documenté par une gravure grâce à cette planche de Louis-sur-Hugues qui représente ce buste. Donc, je vous le rappelle, Louis-sur-Hugues qui représente cette vue du grand escalier de Versailles, qui la représente. Il faut bien penser que le document est gravé. Donc suivant la technique, le document est inversé. Donc il faut imaginer le buste à l'envers. Oui, oui. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Il faut imaginer le buste à l'envers pour établir la correspondance. Et cette fois-ci, on imagine bien que dit l'inventaire. Et donc, il retourne sur la cour royale. Et ici, c'est un buste tout à fait intéressant, monolithique, probablement pas antique, qui a des problèmes au niveau des nez, que Massou, en 1722, précise. Donc, c'est quasiment une cassure historique. Le buste de Cléopâtre, décrit dans l'inventaire, est également présent dans celui de 1717, je vous le disais, qui préparait en quelque sorte celui de 1722. Celui de Massou précise que la tête est levée, qui est levée exprime la douleur. On a un problème avec ce buste, puisqu'il semble tout à fait possible que celui-ci soit celui photographié par Eugène Adjet, ici, dans le bosquet de l'Arc de Triomphe, vers 1902-1903. Or, ce buste n'est plus localisé aujourd'hui. Donc on a un souci pour le moment. Des bustes de Cléopâtre, mine de rien, ça ne court pas les rues de cette dimension. Et si on regarde de plus près, l'usure de ce que Massou appelait la mamelle gauche ou du sein gauche permet de déterminer qu'il était forcément posé sur une façade. Et le pied douche, si on le compare à certains qui sont encore aujourd'hui sur les façades, c'est un pied douche de marbre mêlé. On sent qu'il a été aux intempéries et que ce n'est pas simplement un buste qui a été exposé dans le bosquet de l'Arc de Triomphe, puisqu'il arrive assez tardivement, au moment de la refonte du bosquet. Et donc on est sur le type d'un buste dont le seul témoignage est cette photo de Hadjé. Alors un certain nombre de bustes posent également la question de leur impossible restauration, notamment ce buste d'empereur romain dont le cou a éclaté au moment de sa dépose, car le buste est encore une fois saccharoïde. On le voit presque, hein, tous les petits grains du marbre, hein, s'en vont, c'est assez catastrophique. Ça se voit au niveau de son front et de sa chevelure. Il est quasiment lisse, hein, le sculpteur n'a jamais gravé si peu les yeux. Et donc du coup, il ne peut être restauré afin de procéder à une copie satisfaisante, du moins une reproduction, une prise d'empreinte. Enfin, deux bustes, à l'heure actuelle, ont été identifiés dans les collections du département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. C'est ce buste MA5310, pour être tout à fait précis, des réserves. Je vous ai mis ici la transcription de l'inventaire, enfin comment Massou le décrit. Un buste antique d'une dame romaine, inclinant sur l'épaule droite, le nez est restauré, le corps vêtu d'une draperie fort légère qui laisse voir le haut de l'épaule et de la mamelle droite sur un pied douche de marbre blanc. Donc, on est en train de le faire rapatrier pour le restaurer et pour procéder à sa copie, puisque il est tout à fait possible que ce soit ce buste, l'original hein, qui était sur les façades. Alors il semble que ce soit un buste qui soit passé par les façades du palais des Tuileries à un moment. On sait que l'architecte des Tuileries utilisait les magasins de Versailles pour meubler quelque part les Tuileries. Donc il est fortement possible que ce buste ait été déposé dans les magasins de Versailles, pris par un des architectes de Versailles, emmené aux Tuileries, et du coup, après l'incendie des Tuileries, tous ces bustes ont réintégré les collections du musée du Louvre, et voilà pourquoi il est aujourd'hui dans les collections du département des Antiquités. Alors, la Société des Amis de Versailles a grandement contribué, je vous le disais dès le début, à la restauration des premiers bustes déposés. Un protocole générique adaptable au cas spécifique a été arrêté pour la restauration de ces bustes. Il comprend très rapidement le retrait des anciens mortiers chargés de sel, le nettoyage par compression chimique pardon, et ou laser, le dessalement, puisque c'est ce qui provoque hein, des bustes complètement saccharoïdes, hein, c'est le sel qui ressort des portes du marbre, l'extraction ou la passivation des goujons ferreux, le bouchage et le ragréage au moyen d'un mortier exempt de sel soluble, et enfin la consolidation de l'épiderme et le remplacement du pied douche si nécessaire. Alors l'exemple du buste de Trajan dont la mécène est présente ce soir est assez révélateur. Le restaurateur a procédé à l'ablation des réparations en plâtre, ici vous le voyez et au niveau du nez hein, qui sont il n'y a pas photo, je dirais, bien visible par rapport au marbre. Donc l'ablation des réparations en plâtre, datant du 19e, afin de pouvoir insérer une pièce en marbre taillée sur mesure, ici, pour rendre au buste toute son unité. La campagne de restauration nécessite l'établissement d'une véritable enquête encore en cours pour chaque buste. Il faut faire ce travail pour chaque élément, et donc je vous le disais, pas seulement pour 84, mais pour plus d'une centaine, puisque certains bustes des réserves sont amenés à retourner sur les façades. Là, pour finir, cette étude des 84 bustes ornant les façades du château de Versailles, depuis 1665, à partir d'une analyse précise des documents d'archives, et notamment du seul relevé topographique, j'insiste, hein, quel inventaire de 1722 a permis eh bien, de mettre en lumière une chronologie de l'installation, des mouvements et des restaurations de ces empereurs romains. Les bustes en partie antiques ont ainsi peu à peu disparu pour laisser la place à des sculptures modernes dont la compréhension pendant près de 4 siècles a été nécessaire avant de pouvoir entreprendre la nouvelle campagne de restauration et de restitution des façades. Incarnation la plus aboutie, du moins pour la statuaire côté ville, de ce que Castiglione a appelé la magnificentia des souverains de Versailles, tous ces bustes, ces 84 bustes d'empereurs et d'impératrices romaines, confortent la grandeur de ces princes. La nouvelle campagne de restauration de ces bustes, profondément, je le répète, soutenue par les élus de Versailles, c'est vraiment très important, 15 bustes actuellement mécénés, c'est assez... C'est vraiment incroyable, se place ainsi dans l'histoire du château depuis 1665, mais aussi en rupture, on l'a vu, face aux entreprises des 19e et 20e siècles qui avaient, je dirais, des moyens historiques et scientifiques qui pourraient nous paraître assez absurdes aujourd'hui. Pourtant, toute l'histoire de ce décor reste encore méconnue par l'absence de documents sur la situation des 17e et 18e siècles, et la recherche est encore en cours, heureusement. Je vous remercie.
Merci, un très grand merci. En fait, le format de ces soirées, c'était plutôt que d'engager les discussions, on leur fait laisser Maxime prendre un petit peu d'eau et rassembler ses affaires, et poursuivre l'échange autour d'un verre, tout simplement dans le salon d'à côté. Je vais juste poser une question quand même, parce que je suis pas sûre de l'information que j'ai eue. C'est vrai que fin 2014, quand le conseil d'administration a dit « Bon, allez, on va quand même prendre un bus, bon, on en est donc au 16e », on ne s'était pas rendu compte, mais je crois qu'aujourd'hui, les équipes nationales du château nous ont dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas 30 bus en tout qui avaient été adoptés, parmi lesquels, donc les 16, les anniversaires sur les 84, si vous dire, l'ampleur de la tâche, du besoin de financement qui reste encore et de la difficulté à avancer. Bon, je ne sais pas où c'est les mêmes chiffres.
Oui, c'est ça, on est à peu près ça. Il me semble que les amis sont un petit peu plus de la moitié des bustes actuellement mécénés.
Sur la cour de Marne. Et l'autre question que je me suis posée aussi, parce que cette campagne a donné un but, donc en fait, un budget global a été évalué par l'établissement public pour forfaitiser et dire bah, on va faire, comme on ne sait pas, et vous l'avez très bien expliqué, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a à faire sur un bus quand on ne l'a pas déposé. Et pour comprendre la nature du bus, faire le lien avec cet inventaire, savoir ce qu'on va en faire. Et donc, j'ai été forfaitisée 5 000, 3 000, 4 000. Et maintenant qu'on se rend compte de ce qui est réalisé, et vous avez bien détaillé notamment sur la réunion, c'est à l'ampleur de la tâche, on en est où en fait? Les prochains bus, il faudra les adopter plus cher ou moins cher?
C'est une information budgétaire, donc toujours délicat à formuler. A priori, il ne devrait pas y avoir d'augmentation forfaitaire sur les bus. Les 5 000 euros forfaitaires ont été appliqués justement pour pouvoir mettre en place un système de balance. Vous vous rendez bien compte que le buste de Rome qui va retourner dans les réserves, il y a quelques réparations à faire dessus, mais c'est surtout un gros nettoyage. Clairement, il n'y a pas 5 000 euros de nettoyage pour ce buste de Rome. Contrairement au buste de Trajan, là, il y a dégoujonnage, il faut enlever tous les plâtres au 19e, il faut créer un morceau de marbre sur mesure pour le nez, pour le bas de la draperie. Là, pour le coup, on explose le budget de 5 000 euros. Donc, il y a vraiment une idée de balance entre les bustes, parce que sinon, ce serait au cas par cas. Ça veut dire que le buste devrait d'abord avoir été étudié avant de pouvoir être mécéné. C'est quasiment pas réalisable, puisque je dirais... Non, c'est 5 000 euros. On ne demande pas plus aux mécènes.
Non, ça ne correspond pas exactement au budget du buste, mais ce n'est pas grave tant que l'ensemble de la campagne est dans les plus flous quand même. Ça permet quand même de... C'est difficile de faire autrement. C'est ce qui explique d'ailleurs que, puisque enfin, vous connaissez peut-être le nouveau dispositif, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui nous disaient « mais moi j'aimerais beaucoup adopter un buste en bénéficiant de l'avantage de CEF » et malheureusement on ne peut pas le faire pour ces bus parce que pour pouvoir faire cela, dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Fondation du patrimoine, il faut qu'on soit en mesure de fournir des factures exactes qui correspondent au montant engagé pour le bus qui est adopté. Mais néanmoins, ça reste quand même, si ce n'est pas toujours exact bus par bus globalement, si c'est le cas, on s'associe quand même, on vient choisir un bus, c'est la chose de cette campagne.
À terme, c'est quand même assez rare que la restauration d'un buste dépasse les 5 000 euros. Assez souvent, c'est pas un chiffre au hasard, on l'a réfléchi. Voilà. Pour une raison principale, c'est que 90% des travaux sur chaque buste sont réalisés en interne. Ils sont réalisés par Sébastien Forst et l'équipe de restaurateurs du château de Versailles. Si on est une trentaine, ceux qui sont sur les façades, une cinquantaine, plus, je dirais, ceux qui sont en réserve, puisqu'on arrive à une centaine. Donc, globalement, il y a encore presque 70 bustes encore à mécéner.
Alors, je note qu'un des projets de Thierry Enfance, le nouveau président, est peut-être d'essayer d'être plus vite sur l'accélérateur grâce au projet de développement qu'il a vis-à-vis de PME ou d'ETI, puisqu'en fait, là, très clairement, pour des entreprises, peut-être que c'est un effort... moindre, et on va pouvoir peut-être proposer des offres qui font que, en apportant par exemple un mécénat de 12 000 euros, ce qui permet de financer d'adopter deux bus, une entreprise pourra en contrepartie, ça fait partie du régime cadre fiscal du mécénat, de contrepartie de 25%, donc une visite à un moment de fermeture du château à 3 000 euros, donc dans un cadre privilégié avec une vingtaine de personnes, un accueil dans cet appartement, voilà. Et là, en France, on pourrait avoir une sorte de produit qui pourrait intéresser les entreprises de proximité et donner un coup de pouce à l'idée accélérateur à la campagne.
Est-ce que vous pensez pas que ça puisse intéresser
notamment
des particuliers?
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait.
D'accord, mais pour transformer, enfin, proposer une location
Non, en fait, on ne peut pas proposer de location de salle, c'est-à-dire qu'en fait... Non, parce qu'en fait, la difficulté... entre le mécénat des particuliers et des entreprises, c'est que pour les entreprises, il est admis qu'il y a un avantage fiscal de 60% de réduction du montant sur l'impôt sur les sociétés, et l'entreprise peut bénéficier de contreparties ne pouvant pas dépasser 25%. Et les contreparties, qu'est-ce que c'est? C'est pour le château, des mises à disposition d'espace dans le château, des billets, des entrées gratuites, etc. Le problème pour les particuliers, c'est que la philanthropie ou le mécénat se doit d'être désintéressé. Et en fait, il est admis qu'éventuellement une contrepartie de 25% pourrait être admise, mais il existe un texte fiscal qui indique qu'il est plafonné en montant. C'est pour ça que le conseil d'administration a quand même voté un dispositif en 2014 disant que tout don de plus de 500 euros pouvait bénéficier d'une adhésion offerte qu'on met en place, et qu'on a été obligé de limiter. On ne peut pas octroyer les 25% à un particulier comme on peut le faire à une entreprise. Oui, aujourd'hui, malheureusement, on est quand même très contrôlé pour faire attention. Bon, je vous propose de passer à côté pour continuer cet échange.
Oui.
Alexandre.
Oui, c'est Lionel Arsac.
Lionel
Arsac.
Arsac.
Sauf qu'il a c'est un conservateur titulaire.
Ah.
Monsieur, s'il vous plaît, puis-je me permettre de vous poser une question?
Oui, on m'a tenu au courant de
première
votre
question.
Problème de pupille.
Oui, on vous a parlé du problème de pupille.
Oui. Alors, j'ai fait quelques petites recherches.
Là, j'ai pas eu le temps de rechercher dans quel ouvrage j'avais trouvé cette description. Et notamment, c'était un ouvrage sur la sculpture.
À côté.
C'est certain.